au Champ Libre. Merci d'être là pour le rendez-vous avec Yannick Haenel. Vous avez eu sans doute la petite bibliographie idéale de Yannick Haenel que vous pouvez retrouver à la bibliothèque des Champs Libres auprès. Et merci au Forum du Livre. Voilà, vous pouvez aussi vous les procurer à l'issue de cette rencontre grâce au Forum du Livre. Ils sont tous là. Merci beaucoup Yannick Haenel. Je vous laisse tout de suite la parole. C'est vous qu'on attend.
Merci. Bah écoutez, grand merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est pas mal ce jingle. On a l'impression d'être une émission de, je sais pas, de télé ou de radio. Bon, je suis très intimidé et très excité parce que vous parlez de mes livres préférés. Il y en avait plus que 5, mais bon, on m'a dit que 5 c'était déjà pas mal. Voilà, c'est une grande joie. J'ai choisi des livres qui ont marqué des étapes dans ma vie. Je suppose que vous aimez lire. Moi, c'est pire que ça, c'est une boulimie en fait, et ça ne s'arrête pas et ça empire. Mais il se trouve qu'il y a quand même des livres qui, comme vous le savez, restent. Et depuis une dizaine d'années, même avant, je me mets beaucoup plus à relire. Je pense que c'est l'âge, quoi, tout simplement. La passion aussi, mais l'âge. Et parmi les livres que je relis, je me rends compte, donc les livres que j'ai besoin de relire, je me rends compte que c'est des livres que j'ai connus très tôt. Et le premier d'entre eux, c'est Moby Dick de Herman Melville, que j'ai lu dans cette traduction d'abord, celle de Jean Giono, mais il n'était pas seul, et que j'ai lu dans des circonstances très particulières. Et pour moi, les livres sont comme des rendez-vous avec moi-même et des pierres de destin, disons, autour desquelles s'articule du coup ma mémoire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une bibliothèque aussi intérieure, invisible, que je transporte avec moi. J'ai pas besoin de les prendre. Il y a les livres sur papier, en fait, que je sature de soulignages ou de soulignements, je ne sais pas comment on dit. Mais précisément, ce sont des phrases que j'aime convoquer et dont parfois, de manière clandestine, je truffe mes propres livres. Je prends des petits morceaux comme ça en relisant tout ce que j'ai souligné. Et Moby Dick, je l'ai lu trois ou quatre. Mais la première fois, je vous raconte les circonstances parce que ça me permettra de parler de ce livre avec encore plus d'affection, avec plus de cœur. La première fois, c'était entre 14 et 15 ans, je ne sais plus très bien, où j'étais à l'époque dans un pensionnat assez dur parce que c'était un pensionnat militaire, où mes parents qui vivaient en Afrique, qui étaient coopérants, m'avaient laissé en France. Et ça y est, ça commence les violons. Et comme mon père était militaire, il m'avait placé dans un pensionnat militaire, à La Flèche, et au Prytané, voilà, près, dans la Sarthe, près du Mans. Et alors je me disais, pour me consoler, ouais, bon, c'est bien, il y avait Descartes avant. Et j'avais découvert en lisant une biographie de Descartes, parce qu'il était passé à La Flèche, j'étais un peu jeune pour l'étudier, j'avais découvert qu'il avait une dérogation spéciale. À l'époque, c'était un collège de jésuites, parce que c'était plus le cas quand j'y étais, dans les années 80. Il avait une dérogation spéciale, comme c'était un penseur, comme vous savez, assez puissant, paraît-il. Eh bien, il impressionnait ses maîtres, et il avait donc une dérogation le matin pour ne pas aller en cours, il restait au lit, soi-disant pour penser. Bon, à mon avis, c'est un peu un farceur quand même, ce René Descartes. Mais toujours est-il que j'ai lu, moi aussi, comme Descartes, j'ai lu Moby Dick, entre autres. J'ai commencé à lire, vraiment passionnément, pas comme on lit pour répondre à des injonctions de professeurs, et je dis ça avec beaucoup de respect, moi-même j'ai été prof en collège et lycée pendant près de 15 ans, mais quand on se met à lire par soi-même, et qu'on lit un livre, puis un deuxième, parce que le premier nous y fait penser, et que cette chaîne quasi amicale ne s'arrêtera jamais, quoi. Et en fait, c'était en lisant Rimbaud, dont je vous parlerai tout à l'heure, que j'ai pensé par, je ne sais plus comment, j'ai essayé d'y repenser dans le train en venant, le passage de Rimbaud à Melville, mais peu importe, en passant aussi par Lautréamont, les Chants de Maldoror. Je lisais beaucoup de la poésie quand j'étais jeune homme. Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, c'était ce qui m'exaltait. parce qu'il y avait un rapport avec le de révolte métaphysique, avec le mal aussi. Et puis je rêvais de faire le mur quoi, au pensionnat, tout simplement. Bref, un jour, un dimanche matin, je me souviens très bien au lit, j'avais emprunté à la bibliothèque de section, comme on dit, les deux volumes en folio, à l'époque c'était en deux volumes, de Moby Dick, traduit par un certain Jean Giono, que je ne connaissais pas, et d'autres personnes, parce que c'est une traduction collective. Et là j'ai été ébloui, et je peux dire pour moi que la littérature, si je peux la définir comme ça, c'est une fidélité à l'éblouissement. C'est vraiment même, je pense que l'art, très simplement et très complexement, c'est ça, c'est une puissance sans pouvoir, une puissance purement aimante qui crée en vous une disponibilité pour cette fidélité à vos éblouissements. Qu'on les partage ou non, ils nous accompagnent. Et moi, ça a été dès les premières pages, parce que c'était la voix de ce jeune homme, Ismaël, qui va raconter, comme on le sait tous, qu'on l'ait lu ou pas, le récit d'une chasse à la baleine. Et j'ai jamais été fasciné par le capitaine Ahab, dont je trouvais que c'était un pur salopard, si je puis me permettre. Un tueur, quoi. Mais en revanche, ce personnage qu'on croit secondaire, qui est en fait le narrateur et qui est pour moi le grand personnage de ce livre, c'est Ismaël. Alors Ismaël, vous savez que c'est un prénom biblique. C'est le frère d'Isaac. C'est l'un des deux fils d'Abraham. Et c'est le fils du désert, le fils de l'abandon, celui qu'il n'a pas reconnu, qu'il a eu avec sa servante. Puisqu'il essayait d'avoir un enfant avec sa femme, ça ne marchait pas. Enfin, vous connaissez l'histoire, la plus vieille histoire du monde. Et cet Ismaël va fonder, comme vous le savez, une autre religion, un autre monothéisme, l'islam. Bon, et dans Moby Dick, ça n'a à la fois rien à voir, mais cet Ismaël est quand même celui qui est le seul survivant. Et là, je ne sais pas si je spoil le livre, c'est quand même un... Mais figurez-vous que c'est le seul qui n'est pas mort, quoi. Mais dans mon amour pour ce jeune homme et pour sa voix bien plus puissante, je trouvais à l'époque, que ce que je pouvais lire, bien plus forte que Hugo. Et ça se passe, vous voyez, dans ces immensités-là. Enfin, je dis vous voyez, vous le connaissez, mais ça se passe dans ces hauteurs métaphysiques. Je sentais dès le départ que ce jeune homme avait quelque chose de quand même de particulier. Il se présente comme un moussaillon. Enfin, il se fait engager comme ça sur ce navire, comme l'a fait Melville très jeune pour quitter le giron familial. Et donc tout le roman, qui est un vrai roman océanique, un roman monde, va à la fois proposer, alors ça j'étais trop jeune pour le comprendre, mais je l'apprécie maintenant, une espèce d'utopie, parce que ce bateau, le Pequod, est composé de gens qui sont des parias en fait. C'est-à-dire c'est l'anti-Amérique, ce sont les marginaux, c'est que des étrangers. Et précisément la nation américaine, comme vous le savez, elle est fondée sur ce grand rêve en fait, d'être la patrie de tous ceux qui n'ont pas de patrie. Bon, il semblerait que ça ait bien changé depuis, mais quand même c'est ça qui fonde les États-Unis et c'est ça qui fonde d'autres pays en Europe, mais les États-Unis c'était ça. Et chez Melville, il y a un grand sens poético-politique de ces choses, créer une communauté de ceux qui n'ont pas de communauté. Et au fur et à mesure du roman, on voit que tous les gens qui travaillent sur ce bateau, c'est un véritable travail, ils vont non seulement chasser les baleines, mais les dépecer. Et pour créer de la lumière, en fait, puisque c'est l'huile qui va servir. On est quand même à la fin du 19e siècle, enfin, qui va servir à allumer les lampes à pétrole, les bougies. Donc, créateur de lumière. Il y a toute une réflexion dans le livre, d'ailleurs, sur Lucifer. Et oui, alors, on découvre peu à peu, comme vous le savez, je ne sais pas si vous en souvenez, mais que tous ces gens qui sont des prolétaires, en un sens, en fait, sont des rois de différentes îles, des mers du sud. Et le grand compagnon de Ismaël, qui est tout jeune, donc, qui est un matelot, s'appelle Quick Egg, qui est un grand et beau et fort gaillard de peau noire, qui a des tatouages merveilleux sur tout son corps. Et Alors qu'au départ, il effraie complètement Ismaël, qui est obligé de partager avant le départ à Nantucket, avant le départ du bateau, qui est obligé de partager sa couche avec lui, parce que dans les hôtels comme ça, pour pauvres, on dormait à plusieurs dans les lits. Alors qu'au départ, il est terrifié, il va avoir peu à peu accès à la souveraineté de cet homme. Et je crois que c'est l'un des grands thèmes de ce livre. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. C'est la, comment dire ça, la noblesse intérieure. Pas nécessairement la noblesse de sang, pas nécessairement l'aristocratie réelle, familiale, mais l'aristocratie de l'esprit, comme dirait Nietzsche. Enfin, et donc, tous ces personnages composent à la fois une communauté et un monde de personnages qui sont tous au même niveau. Il n'y a pas de second rôle dans ce livre. Le seul qui a le premier rôle, je vous disais tout à l'heure un peu cavalièrement, je vous prie de m'en excuser en le traitant de salaud, le seul qui a le premier rôle, c'est le méchant. C'est le capitaine Ahab qui veut se venger, vous vous souvenez de cette baleine, parce que celle-ci lui aurait arraché la jambe. Voilà. Si vous avez vu l'une des adaptations assez belles au cinéma, vous vous souvenez, enfin, de Gregory Peck et de sa jambe comme ça, son plâtre. Enfin, c'est pas du plâtre, évidemment. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Il a une jambe qui est entièrement formée par, je sais pas si on dit pas une corne de baleine, on dit, je sais pas quoi. C'est une dent. Voilà, c'est une dent. J'aurais dû réviser mieux, mais par une immense dent de baleine. Et il marche avec cette dent. Bref, ce livre m'a apporté des comprimés de vie. Je ne sais pas comment vous dire, moi je ne suis pas très marin, en fait. Je n'ai pas non plus de grandes acquaintances pour la littérature de voyage, mais il ne s'agit pas de ça dans ce grand roman tempétueux. Il s'agit vraiment de l'épreuve de vie qui nous est apportée dès lors qu'on est embarqué. Et je pense que ce Pequod, qui sinue le monde entier pour aller trouver des baleines, propose en fait de nous embarquer dans l'existence elle-même. À force de le lire, et je l'avais lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en 2002 ou 2003, l'été, qu'il y a eu une grande canicule, 2003. À l'époque, on ne parlait pas encore tout à fait de dérèglement climatique, mais ça commençait. Et je me souviens que j'étais tout seul dans une petite chambre de bonne sous les toits à Paris. Bon, c'est une chaleur infernale, au mois d'août. Et j'ai lu Moby Dick pour me rafraîchir. Mais je vous assure que ça marche, en fait. C'était pas mal. Et cette eau lustrale, chargée de sang, hein, c'est un roman terrible, a quelque chose de galvanisant. Et j'ai compris peu à peu, enfin, je dis c'est moi qui aime comprendre ça, maintenant ça parle peut-être d'autre chose, qu'au fond, tout le sens du livre est peut-être un peu plus spirituel, disons, et relève du rapport qu'on entretient, chacun de nous, puisqu'on est sur ce bateau quand on le lit, qu'on entretient avec la baleine. Et il se trouve que le seul, finalement, qui aime la baleine, parce que les autres en ont peur, ou veulent la tuer, ou veulent la dépecer, veulent en débarrasser le monde et les mers, le seul qui explicitement aime, mais d'un rapport, d'un amour quasi mystique, le seul qui aime la baleine, c'est Ismaël. Et c'est le seul qui est épargné par celle-ci. Et je pense que ça raconte très simplement une fable mystique, au fond. À savoir que du rapport avec le monde se déduit l'amour que celui-ci peut nous prodiguer, en fait. L'indemne, j'aime bien ce mot d'indemne, l'indemne est au cœur de ce livre. L'indemne, vous savez, ça veut dire, non damné, ce qui n'est pas damné, ce qui échappe à l'enfer, en fait. Et je suis persuadé au fil du temps, là, plus j'avance en âge, ou je recule en âge, je ne sais pas comment on dit, qu'il y a une part irréductible, il y a une part indemne dans chacun de nous, qui est recouverte, en fait, qui est obscurcie par toutes sortes de choses, enfin, parfois par le malheur, mais souvent par la société, enfin, qui nous bourre le crâne, et par notre manière de nous détourner de l'essentiel, voilà, de notre propre solitude, de notre vie intérieure, je sais pas comment le dire. Bon, et moi, cette part là, que j'essaye de rouvrir sans cesse comme je peux, notamment en fréquentant des œuvres d'art, en lisant, cette part d'indemne, je la vois au cœur de La Baleine Blanche. Et c'est comme si tous les hommes, parce que c'est un roman composé que d'hommes, et je sais que ça ne marche pas en anglais, mais je vais dire une chose étrange, c'est que la baleine, au fond, c'est la seule féminité du livre. Alors je sais qu'en anglais, c'est the whale, pardonnez-moi, je sais pas comment on dit. Enfin, je sais pas comment on prononce bien. Mais quand même, c'est très frappant, c'est un roman très masculin, tout entier tendu vers l'idée de tuer, de massacrer un principe féminin. Et le seul, encore une fois, le jeune homme... qui, au contraire, ne veut pas participer à ce massacre, qui a quelque chose en lui qu'il ne connaît pas, il est d'autant plus touchant qu'il ignore cette vérité qui est en lui, cet indemne, eh bien, ce jeune homme, il idolâtre cette baleine, en fait. C'est pour ça qu'on le donne à lire parfois aux enfants, mais à chaque fois, je me dis, c'est quand même fou, parce que c'est un livre terrible. Moi, j'ai lu récemment des versions des petites, là, vous savez, expurgées, comme on dit, pour enfants. Mais c'est quand même... ils ont gardé que les scènes atroces, c'est quand même dingue. Je dis, mais je sais pas... alors que les scènes poétiques sont merveilleuses. Bref, l'idée, c'est... Voilà, c'est enfin, je me dis aujourd'hui, voilà, Moby Dick, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui s'initie, malgré la malfaisance, malgré le mal apparent, à traverser le mur de ce qu'on dit sur cette baleine blanche et à trouver en elle quelque chose. Et elle le récompense, puisqu'elle aurait pu le tuer. Il est le seul survivant. Et moi seul suis venu pour vous le dire, c'est dans le livre de Job. C'est cité explicitement, I only alone. Moi seul suis venu pour vous le dire. Le narrateur, la narratrice, pour moi, dans tous les livres, la voix de la narratrice ou la voix du narrateur a toujours quelque chose de biblique, de prophétique qui vient de très loin, et c'est toujours un peu un frère ou une sœur d'Ismaël, vous voyez. Je lis presque tous les livres, je me rends compte d'ailleurs en vous le disant là, en l'explicitant mieux à moi-même aussi, je me rends compte que Moby Dick est devenu comme une grille de lecture. Enfin, il y a toujours cette voix quelque part. Voilà, tous les livres du monde rencontrent un peu et charrient avec eux dans leur vague un peu de Moby Dick. Voilà. Bon, c'est pas mal de faire Bernard Pivot. Moi, c'est ma génération, c'est plutôt un peu Bernard Pivot. Et les autres limites, Augustin Trapenard, il fait ça aussi, c'est pas mal, j'aime bien se mettre sur le côté, comme ça, prendre un livre. Je vous conseille, j'en profite, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, c'est pas mal. Je vous conseille Arthur Rimbaud, merci, vous n'y avez pas pensé avant moi, je parie. Alors, Une saison en enfer, il se trouve que je suis gêné parce que c'est l'exemplaire que j'ai préfacé, figurez-vous. Je ne touche pas de bénéfice là-dessus si vous l'achetez. C'est un livre aussi que j'ai lu. Alors, je dis livre, parce que c'est le seul livre qu'Arthur Rimbaud, comme vous savez, a voulu composer et publier. Et comme il n'avait pas l'argent pour payer la deuxième moitié ou le deuxième tiers, je ne sais plus, à l'imprimeur, l'imprimeur ne lui a pas donné en Belgique. C'était dans des cartons. Il a eu quelques exemplaires, il en a apporté un à Paul Verlaine qui était en prison, vous vous souvenez de cette histoire, Verlaine a tiré sur Rimbaud. Enfin. Rimbaud lui a apporté un exemplaire, et je crois que c'est grâce à cet exemplaire-là et à un ou deux autres qui sont à la Bibliothèque Nationale à Paris qu'on a pu lire Une saison d'enfer. Une saison d'enfer, je ne sais pas comment vous dire, c'est l'un des livres les plus... a priori hermétique de toute la littérature mondiale et française, ça c'est sûr. Ça fait une soixantaine de pages, mais au fond, rien n'est trop beau, enfin, et rien n'est trop compliqué, pour peu comme Ismaël, qu'on ait un regard aimant. Et on peut le lire... Rimbaud disait littéralement et dans tous les sens. C'est au premier degré, si on veut. Ce sont les carnets d'un damné, dit-il. Il fait assez jeune une espèce d'autobiographie métaphysique, en fait. Et il raconte la même histoire que je vous racontais là, c'est-à-dire comment sortir de l'enfer. Alors quel enfer ? Celui qu'on a en soi, celui que la société industrielle à Londres où il vivait, à Paris et à Bruxelles était en train de comment dire, d'organiser le monde de manière comme ça pesante, enfin emprisonnante. Est-ce que c'est cet enfer-là ? Est-ce que c'est un enfer plus métaphysique ? Enfin, Rimbaud, en tous les cas, dans ce texte, met en scène ses amours tumultueux avec Verlaine, qu'il appelle la Vierge folle, très sympathique. Mais surtout, il rend compte de la manière dont il a voulu devenir plus qu'un poète. Et c'est un chapitre merveilleux, à mon avis, l'un des plus beaux, là aussi, écrit en langue française, que j'ai lu 10 000 fois parce que pour m'y ressourcer, enfin, qui s'appelle « Alchimie du verbe ». Bon, c'est très connu, on lit même ça à l'école, mais quand on lit à l'école, je ne sais pas si on se rend compte. Enfin, moi, quand j'étais petit, je lisais ça, bon, je trouvais ça... Le mythe Rimbaud me plaisait, évidemment, mais bon, ça me semblait impénétrable. Ce que j'aime dans la poésie de Rimbaud, c'est qu'on peut la méditer comme de la philosophie, en fait. Et... C'est de la pensée gracieuse. Moi, j'ai fait philo et littérature en même temps à Rennes, figurez-vous. Et comme vous le savez, parce que j'étais étudiant ici, et la littérature, c'est à Villejean, donc à Rennes 2. À l'époque, il n'y avait pas le métro, donc c'était une galère, comme ça, en bus. Et puis, la philo, c'était de l'autre côté de la ville, à la sortie, vers la route de Fougères, voilà. Beaulieu, voilà. Et donc, comme je faisais les deux, moi, bien, je me croyais malin, du coup, j'ai fait 2 licences. Mais sauf que mes journées, c'était d'aller de la philosophie à la littérature, c'est-à-dire de Villejean à Beaulieu. C'était un itinéraire un peu comme dans Proust, vous savez, il y a du côté de chez Swann, et puis, enfin, bon, bref, je vous fais pas le tout le temps. Et en fait, c'est ma vie, quoi. D'aller de la philosophie à la littérature, de la littérature à la philosophie. Et au milieu, il y a la poésie. Qui, à mon avis, ne s'écrit pas qu'en vers, mais aussi en prose, et qui, peut-être, dans le meilleur des cas, parfois, de manière merveilleuse, chez Hölderlin, chez Rimbaud, chez Paul Celan, chez Laura Vasquez, que j'aurai la joie de vous présenter demain, vous n'avez pas besoin de moi, mais on m'a demandé qui j'avais envie d'inviter, c'était un privilège, et j'ai dit Laura Vasquez, et une cinéaste merveilleuse qui s'appelle Alice Diop, qui sera présente... dimanche, et qui s'intéresse passionnément à la littérature, et notamment à Michel Léris. Et on parlera de ça. Et donc oui, la poésie de Rimbaud, je me sens bête quoi, à vous en parler. Mais comment dire ça ? Je ne vais pas dire on n'a pas fait mieux, ça serait idiot, ça serait un peu... Ouais, ce serait idiot. Mais il se trouve que pour moi, c'est en avant toujours. Les livres que j'aime me semblent une mémoire en avant, vous voyez, si une telle chose peut être possible. Une mémoire qu'on essaye d'atteindre, dont on sent très bien qu'on a à voir avec elle. Elle parle de nous, cette mémoire, même si elle est plus grande que nous. Et Rimbaud, parce qu'il est absolu, parce qu'il a fait... se consumer le langage, ou plutôt parce qu'il a fait se brûler sans se consumer, a atteint quelque chose comme ce qu'il appelle la liberté libre. Ça m'a toujours plu dans sa correspondance. Il ne se contente pas de parler de liberté, mais de liberté libre. Et dans ce redoublement de la liberté, il y a quelque chose qui sans doute de fiévreux, de comment dire ça, d'insurrectionnel, qui dans son esprit ne se satisfait pas de ce qu'on appelle, nous, pauvres humains, la liberté. Il aspire à une liberté qui elle-même serait libre, c'est-à-dire détachée de tous les conditionnements, de toutes les subjectivités peut-être. Et alors ce qu'il y a de terrible, comme vous le savez, de beau, c'est que dans Une saison d'enfer, il s'agit de récapituler pour lui ce qu'il voyait dans la poésie, c'est-à-dire une sorte de réinvention de la langue. Enfin, il s'est rêvé mage, dit-il, enfin, magicien. Enfin. Et en même temps, il y a un sarcasme chez lui. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il se paye sa propre tête. Il ne supporte pas les grands mots. Et il explique pourquoi il va donner congé, non pas à la poésie elle-même, mais à sa prétention à lui, à se dire poète. Et c'est terrible de se dire que sans doute le plus grand poète français estimait qu'il n'était pas à la hauteur de la poésie. Et il est parti en Afrique après, comme vous savez. Il a continué à écrire des lettres très belles, d'ailleurs, qui sont, à mon avis, beaucoup trop minorées. Alors, il s'intéresse à autre chose, mais il écrit merveilleusement et sans doute très vite, comme on le fait quand on écrit des lettres, comme ça, à la plume. Et ça scintille. Enfin, il y a quelque chose dans le récit de ses parcours géographiques, dans ses pérégrinations, notamment en Éthiopie, qui est sublime comme langue. Voilà. Donc, voilà, c'est une leçon aussi pour moi. Enfin, se dire, tiens, l'exigence, on n'est jamais trop exigeant avec soi-même. Voilà. Parce que même Rimbaud, il trouvait que il n'était pas à l'auteur de la poésie. Voilà. Sans transition, comme on dit à la télévision. Mais je vais en trouver une. Je passe carrément à Marguerite Duras. Il y a des livres qu'on lit dans l'éblouissement. Je vous ai parlé de mes livres... Mes deux grands livres de jeunesse auxquels j'essaye de rester fidèle en écrivant, parce qu'en écrire, ça fait tourner toute la bibliothèque autour de moi, enfin, et ça m'oblige, comme on dit, la noblesse, noblesse oblige. Je sens qu'il faut que je rouvre sans cesse tous les livres, enfin, parce que j'aime être influencé. Les gens disent, oh, faut pas être trop influencé, faut avoir son propre style. Bon, très bien, mais enfin, nous ne sommes qu'influence. Enfin, bien sûr, il ne s'agit pas de psittacisme bête, de répéter les choses que les autres ont trouvées avant nous, mais d'être ouvert, de se rendre disponible pour enfin arriver, porté par les mots des autres, à les abandonner, ou plutôt à sillonner avec eux et à trouver ses propres mots. Voilà. Et alors, y a d'autres livres qui sont pas que j'ai découvert au fil du temps. Et il y a notamment, il y a des écrivains que j'aime de plus en plus, que j'ai découvert plus tardivement, et dont je sens que, à 12 ans, j'aurais rien compris. Et cet éblouissement va montant. Il y a Nabokov, par exemple, Proust aussi, et Marguerite Duras. Et Marguerite Duras. Je crois avoir à peu près tout lu maintenant, parce que c'est une œuvre colossale, enfin, il y a énormément de choses. Et j'ai choisi pour vous, moi j'aime beaucoup Le Vice-Consul, un drôle de livre qui a été adapté au cinéma par elle-même, ça s'appelle India Song, avec la merveilleuse Delphine Seyrig, film complètement hypnotique, et peuplé de fantômes très élégants, enfin, à Calcutta, dans une ambassade, qui est en fait totalement irréelle, théâtrale, enfin. Bon, bref. Et j'ai choisi pour vous un petit livre qui me touche énormément. Je dois même dire que ça me fait un peu pleurer, parce que, qui s'appelle Écrire. Je vous le conseille vivement, si vous ne l'avez pas lu. Parce qu'en fait, là, je l'ai découvert, figurez-vous, sur YouTube. Comme quoi, ça a du bon, enfin, ces choses-là. Parce que d'un coup, j'avais vu Marguerite Duras écrire, réalisé par Benoît Jacquot. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc ? Enfin, il y a des années, quand même. Et ce livre, en fait, est fondé sur un entretien filmé qu'elle a donné à ce cinéaste il y a des années. C'était peu de temps avant sa mort. Marguerite Duras, elle est très âgée, elle est toute petite. Elle semble recroquevillée sur elle-même. Elle joue au piano, c'est merveilleux. C'est à Nofle-le-Château dans sa maison. C'est un grand moment de littérature vivante. Elle parle comme elle écrit, en fait. C'est stupéfiant. C'est presque mal filmé, mais c'est très beau. Ça s'agite un peu. On sent qu'il a dû se dire au dernier moment, au lieu de vous enregistrer, Marguerite, je peux vous filmer, ça ne vous dérange pas ? C'est extraordinaire. Et alors, ils ont senti tous les deux que ce moment était très intense. Je vais vous en parler là de plus en particulier. Et il a retranscrit ça pour elle, et elle s'est mise à le réécrire, comme on fait quand on est écrivaine ou écrivain, c'est-à-dire on prend les choses et on en fait comme ça une espèce de royaume, un château. Enfin. Et cette petite trame, qui était déjà très belle, elle en a fait tout un livre qui est encore meilleur. Mais dans ce film, elle raconte des choses étoilées, folles. Je dis folles, pas psychiatriquement, hein. Dont seule Marguerite Duras est capable de les transfigurer. Elle parle de cette maison, de sa solitude, de son rapport, alors là, insensé à l'alcool. Elle dit des choses inouïes, parce qu'elle a eu des grandes périodes d'alcoolisation, enfin, ténébreuses, où elle dit « l'alcool, c'est l'absence de Dieu ». On se dit « à la fois c'est n'importe quoi, et en même temps c'est très profond. Enfin, et oui, c'est ça. C'est dans ce film, elle profère quelque chose qui semble très proche des pensées de Pascal. Vous voyez, quelque chose qui dont chaque mot se détache sur un fond de solitude quasi nocturne et stellaire. Et elle raconte à un moment, c'est ça qui me faisait pleurer en fait. Mais maintenant j'ai peur d'être ridicule en vous le disant, mais tant pis. Elle raconte à un moment, parce qu'elle est, c'est une femme assez hantée en fait. Elle a en elle de la sorcière, mais aussi de la magicienne. Enfin, sorcellerie blanche, sorcellerie noire. Enfin, c'est ce qui la rend fascinante. Enfin, peut-être agaçante pour certains. Moi, j'en sais rien. Enfin, moi elle me touche. Et à un moment, elle raconte. Qui a dans sa maison à Nofle-le-Château, où donc elle a longtemps vécu seule, il y a un lieu où elle ne va jamais, un couloir, où elle n'est jamais allée. Et elle le montre à Benoît Jacquot, qui du coup est un peu surpris, tourne sa caméra, puis on voit une espèce de couloir un peu, bah, effectivement qui ne fait pas très envie, mais enfin bon, c'est juste un couloir quoi. Et elle se met à raconter en tremblant, et elle devient vraiment une enfant, une terreur enfantine. Elle raconte qu'un jour, là-bas, dit-elle, et elle le revit, elle a regardé une mouche. On se dit, oh, ok. Et elle a assisté, dit-elle, pendant des heures, à la mort d'une mouche. Et je vous jure, et c'est réécrit là-dedans, je vous jure que c'est aussi passionnant le récit de la mort d'une mouche, vous imaginez franchement, par Marguerite Duras, que Moby Dick. C'est complètement dingue. Et parce que ça, son récit porte sur le reste, vous voyez, sur ce qui est négligé, sur la part non aimée dans l'humanité. Et elle ne fait aucun plaidoyer, hein, c'est pas son genre, c'est pas très moral ni immoral, d'ailleurs, elle s'en fout, je crois. Mais d'un coup, cette mouche devient l'objet absolu de son amour et de sa terreur, et ça devient le monde. Tout dépend de ça, en fait. C'est un suspense haletant, vous allez voir. Et bon, pour ces choses-là, incongrues, mais qui, en une page, recomposent notre regard, hein, et puis ce qu'il en est d'être en vie, ben, moi, c'est pour ça que j'aime la littérature. Enfin, c'est pas pour être bercé par de belles histoires. C'est vraiment parce que on est d'un coup mis face à des abîmes, non pas de manière masochiste, mais ce sont des abîmes qui sont parfois très plaisants, enfin, mais des abîmes dont on n'aurait peut-être même pas conscience. C'est-à-dire, je crois qu'on passe beaucoup de temps, enfin moi en tous les cas, à nous détourner au fond, parce qu'on ne sait pas où est l'essentiel de nos vies et l'essentiel du monde. On essaye d'être concerné ou alors on est indifférent, peu importe. Mais vraiment, s'il y a une vertu, j'en sais rien, je me méfie aussi des choses un peu trop vertueuses. Mais s'il y a une vertu de la littérature, c'est quand même de nous, si c'est de la littérature, hein, de nous ramener immédiatement à la fois à la pesanteur et à la grâce de l'existence. Voilà. Parfois, je me dis, tiens, j'existe pas tellement. Il y a des journées comme ça, on n'existe pas, quoi. On n'est pas, bon voilà, même parfois quelques minutes on s'absente, on est bon, mais la présence absolue, presque cette conjugaison poétique, enfin, qui nous fait venir quelque chose à la fois du langage mais aussi des larmes de joie, ben, je trouve que la littérature nous la prodigue, voilà. Je crois que c'est le seul langage, enfin, aujourd'hui je me dis ça à 56 ans, avant je mettais le cinéma très très haut. J'aime toujours ça, hein. Mais et puis la peinture, évidemment, c'est la passion de ma vie. Mais je trouve que la littérature est le seul lieu où le langage est enfin seul face à lui-même. Je veux dire par là que, comme vous le savez, tous les langages sont, et tout est langage, évidemment, mais toutes les formes de langage, surtout depuis 20 ans que ça s'est accéléré, la communication instantanée, et nos rapports aux écrans, disons, et à l'écriture elle-même, enfin sur écran, téléphone et autres, je trouve que, enfin moi je le vis comme ça, tous ces langages-là, dans leur rapidité, dans leur commodité, sont quand même fondées sur quelque chose qui nous occupe sans cesse l'esprit, qui nous empêche d'être seuls et qui nous aliène, voilà, pour dire un mot ancien. Dans la littérature, le langage est enfin seul avec lui-même. Je suis pas sûr de bien être clair en disant ça, mais je le sens comme ça. Mais d'une belle solitude, une solitude qui peut penser, vous voyez, comme une case vide dans un jeu, dans un échiquier. C'est là où ça se joue, en fait. Et du coup, je m'en fais pas pour la littérature. Non, je veux dire par là que les gens disent « Oh là, plus personne ne lit », ce qui est faux. Enfin, il suffit de regarder les enfants, leurs passions possibles, il suffit de vous voir. Je m'en fais pas parce que la littérature a cette puissance-là, cette puissance douce et calme qu'aucun autre art n'a, qui est cette solitude du langage, cette grande solitude. Voilà. Cette solitude, cette fois-ci j'ai une transition, cette solitude je la ressens aussi un peu comme un royaume dans un livre. Alors là, peut-être vous ne le connaissez pas, je suis assez content si vous ne le connaissez pas non plus, ce n'est pas pour jouer le malin, mais c'est un des secrets les mieux gardés, à mon avis, de la littérature du XXe siècle. C'est une femme merveilleuse qui s'appelle Cristina Campo, Cristina sans H à l'italienne. Elle est florentine, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les Impardonnables ». C'est un recueil c'est pas des essais, donc c'est dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, mais on s'en fiche. C'est pas vraiment des essais, mais ce sont des méditations sur les poètes qu'elle aime, sur l'acte de lire, qu'elle conçoit comme une liturgie, figurez-vous. Non pas comme un acte culturel, mais comme une liturgie, presque comme une prière laïque. Alors elle est très croyante. Et cette Cristina Campo a quelque chose qui, à mon avis, ne s'apprend pas, et qu'elle appelle en italien la sprezzatura. La sprezzatura, si j'ai bien compris, enfin, il y a beaucoup d'usages de ce mot, c'est une forme de grâce, enfin. Et d'usage gracieux du langage, enfin, c'est aussi le bon mot, le mot d'esprit, l'éclair, comme ça. Et je dirais plus simplement que c'est l'élégance. Alors l'élégance, on ne peut pas la vouloir, comme vous savez. Et même si on veut l'élégance, alors ça se transforme en vulgarité. C'est une chose très délicate. Et là aussi, je pense que notre amour pour l'élégance... implique de notre part une forme de modestie, en fait, de laisser être, de nous rendre disponibles éventuellement à ça chez nous et chez les autres. Moi, ce qui me bouleverse dans la vie, ça a à voir avec l'élégance. Mais l'élégance, ça ne veut pas dire être bien habillé, comme on dit un peu bêtement. C'est évidemment pas que ça, ça peut compter ou pas. Je serais bien embêté de vous le définir maintenant, mais maintenant que j'ai commencé cette phrase, il faut bien que je la finisse. L'élégance, ce serait... Oh mon Dieu, c'est pas possible, moi. L'élégance, ce serait donc... pardon. Une manière... non autoritaire, d'essayer de porter avec soi quelque chose de juste, un regard juste sur le monde, voilà, de vivre une forme de justesse, je dirais ça. Bon. Je pense que cette élégance, mais elle en parle bien mieux que moi, précipitez-vous, n'est-ce pas, sur les impardonnables de Cristina Campo, ce sont des petits traités d'éthos, vous voyez, d'éthique. L'éthique, vous savez, c'est pas autoritaire, c'est contrairement à la morale. Voilà. L'éthique, c'est un programme personnel. C'est moins rigide que les principes. C'est quelque chose qui est comme une boussole assez indécise. J'aime bien cette indécision dans l'éthique, parce que sinon, on est accroché à quelque chose qui devient un peu qui tape à côté, parce que on change, tout change, se métamorphose. Bref, voilà, l'élégance, je reviens à ce mot, j'essaye de le faire flotter, une élégance stylistique, une élégance politique aussi, une manière d'interroger ce qu'on aime, voilà, et d'avoir peut-être le sens de l'incarnation de ça. J'ai toujours pensé que l'élégance morale, donc l'élégance éthique, était très ouverte aux autres. Vous voyez, ce n'est pas le dandysme. Le dandysme vestimentaire, c'est un peu pour soi quand même. C'est un rapport avec le monde qu'on affirme, un peu pour se distinguer des autres aussi. Je trouve que l'élégance, ça, c'est une manière de Barthes, Roland Barthes dirait, de ne pas y toucher. Vous voyez. De ne pas insister, de ne pas être pesant, de flotter sur les choses, d'accueillir. Enfin, voilà. Bon, si je continue, je vais être hyper vertueux d'accueillir. Ça fait un peu résilience et tout. Bon, c'est beau aussi ça, mais restons calmes. Je me le dis à moi. Et Cristina Campo, voilà, c'est une. Il y a quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup la littérature médiévale. Et j'aime Chrétien de Troyes, j'aime les romans de chevalerie, parce que j'ai lu ça tout jeune, on revient aux lectures d'enfance. Perceval m'a toujours beaucoup plu. J'aimais bien quand j'étais petit. Imaginer comme ça des situations inédites entre Gauvin, Lancelot, Perceval, vous me direz, des occupations un peu bizarres, mais c'était ça plutôt qu'autre chose, c'était mieux que je sais pas quoi, mes parents avaient pas la télé, donc c'était bien, moi je passais mes soirées à penser à ça, à la chevalerie, et à Don Quichotte plus tard, qui est une espèce de parodie de la chevalerie. J'ai encore un peu de temps, non? Ah! Ah non, 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 mais c'est pas pour ça que je... Alors attendez, il faut pas que j'oublie. Voilà, et la chevalerie, le... Oui, et Cristina Campo, donc, elle parle beaucoup de l'amour courtois, de choses héraldiques, et de cette exigence envers soi-même, enfin, encore une fois, qui porte à... qui l'apporte, elle, en tous les cas, à faire du rapport qu'elle a avec les choses et les êtres qu'elle aime un chef-d'œuvre. Je veux dire, parfois non écrit, faire d'un amour qu'on a dans sa vie un chef-d'œuvre, mais à vivre. Bon, ça, c'est ça peut paraître prétentieux, mais je crois que c'est tout simple et c'est la moindre des choses. C'est-à-dire penser avec soin à ce qu'on... à la personne qu'on aime ou à ce qu'on aime. La littérature, pour moi, a à voir avec ça, avec ce désir-là, qui est très illuminé aussi, qui est très fou, parce que c'est évidemment un vertige, on ne peut pas, sans doute, complètement faire de ce qu'on aime un chef-d'œuvre, mais pourtant, c'est vers ça qu'on va. Enfin. Et quand j'écris un livre, c'est aussi une histoire d'amour, en fait, en un sens, avec cette matière-là que j'aimerais aimer assez pour qu'elle se transmette. Je vais finir, donc, avec un livre, et je me demande ce qui m'a pris en le suggérant à Astrid Massiot, qui m'avait demandé merveilleusement de 5 livres préférés. C'est un livre que je n'en finis pas de ne pas finir, comme Robert Musil lui-même dans sa propre vie. Je me compare pas, mais c'est juste que je vais dire un paradoxe. Hein, c'est pas par paresse, c'est presque un livre impossible à lire. Et Marguerite Duras, encore elle, a écrit un texte génial, vraiment génial. J'aurais dû l'apporter, mais on n'a pas assez de temps. Et vous êtes assez grand, la bibliothèque a l'air très fournie. Pour le trouver, je crois que c'est dans le deuxième volume de Outside. C'est pas la vie matérielle, c'est la vie quelque chose... Oh, je sais plus, mince. Bon, je vais essayer de trouver. Ce sont des petits essais chez POL, vous voyez, les couvertures blanches avec un petit logo bleu. Et... il y a un texte où elle raconte sa lecture de Robert Musil, à qui elle a piqué, par parenthèse, dans La pluie d'été, très beau livre de Marguerite Duras, une espèce d'amour incestueux réussi entre un frère et une sœur, enfin je veux dire, spirituel, enfin, mais c'est le sujet de L'homme sans qualité. L'homme sans qualité, c'est l'un des livres les plus géniaux qui existent. C'est pas qu'il soit compliqué, chaque page est lisible, mais cet homme a tenté quelque chose qui parfois me prend aussi, et je me dis non, surtout pas, ne va pas dans cette région-là, parce que ça va être stérilisant, c'est de faire une fiction théorique. C'est de faire dans un même geste de la fiction, de la narration poétique, disons, de la narration, et de la pensée. Et son livre aussi, sans cesse, entre l'essai et le roman. Et ça s'est enlisé aussi parce que C'est écrit au début dans la première partie du XXe siècle, et c'est la fin de l'Empire austro-hongrois. Enfin, il reprend c'est plus tôt évidemment, mais il reprend la fin de l'Empire austro-hongrois. Ça se passe en Autriche, ça se passe à Vienne. C'est un livre très polémique sur ce pays. Il l'appelle la Cacanie. Et le pays du cancan, enfin, et du caca aussi, excusez-moi. Et c'est la vie d'Ulrich, une espèce de jeune homme assez rimbaldien, assez absolu, mais qui a choisi la politique et qui est un subversif de l'intérieur. Bon, c'est un livre qui accroche plein d'histoires, c'est un roman monde, comme on dit. Et il y a le surgissement d'une jeune femme, Agathe, qui est la sœur d'Ulrich. Et là, on est dans un vertige, c'est dans le volume 2, une fois que vous avez lu 1000 pages. Mais vous pouvez lire directement le volume 2, enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. Là, c'est carrément une tentative révolutionnaire, enfin, la révolution qu'on fait soi-même avec la personne qu'on aime, une tentative pour vivre à hauteur d'amour mystique et physique en même temps. C'est le cantique des cantiques, vous voyez. Si j'avais eu une sixième œuvre préférée, j'aurais mis le cantique des cantiques. Voilà, j'ai envie de finir avec des points de suspension. Je ne les aime pas dans la littérature, les points de suspension, mais là, ils sont c'est un peu musical, un petit point de suspension, et ça me permet de ne pas finir cette phrase et de vous remercier. Merci.